Chapitre 10. Lazare.
Le 12 juillet 1989.
Chère Ophélie, je te prie d'excuser mon long silence. Ma dernière lettre doit dater de plus de 10 mois maintenant. Je t'avais promis de te tenir au courant dès que j'aurai de nouvelles informations. Tu t'en doutes, si je ne t'ai pas recontacté, c'est que je n'en ai récolté aucune. Aucune nouvelle étoile de notre grand ours n'a brillé à ce jour, et pourtant, je n'ai pas ménagé ma peine. Si je t'écris, tu t'en doutes peut-être, c'est parce que ton père a été libéré. Je l'ai appris hier. À vrai dire, on ne parle que de cela dans le quartier Sorano. Enfin, plutôt, les vieux du quartier ne parlent que de cela. Tous les autres ont déjà oublié cette nuit du 29 avril 1983. Sûrement est-ce mieux ainsi, Ophélie. Tu m'autorises à te parler franchement, comme je l'ai toujours fait. Une seule chose est certaine. Ton père est le dernier à avoir vu ta maman vivante. Quoi qu'ait aperçu les 7 étoiles de notre grand ours, aucun témoin n'en sait autant que lui. La seule caméra ayant filmé ce qui s'est passé ce soir-là, ce sont ses yeux. Et la vidéo est enfermée dans sa tête. Je ne sais pas si tu auras envie de le rencontrer, mais si tu veux mon avis, je crois que ce serait une bonne idée. Peut-être que Jocelyn, enfin ton père, t'offrira la clé. T'avouera ce qu'il n'a pas avoué aux policiers. Te révélera cette vérité que tu cherches depuis des années. Mais rassure-toi, Ophélie. Quoi que tu décides, ton vieux Lazare continue d'enquêter.
Je lève un instant les yeux de la lettre. L'enveloppe déchirée est coincée entre mes genoux. Je suis assise en haut du toboggan du parc de jeux, comme des centaines de fois depuis que je suis arrivée au foyer. Il est interdit aux plus de 10 ans en théorie, mais je n'ai pas passé 6 ans à la prairie pour ne pas faire ma loi face aux plus petits. D'ailleurs, les autres gamins de la prairie sont partis au poney ou en colo ou chez leurs parents. Presque tout le monde est parti, sauf Nina et moi. Et Nina n'est pas prête de se lever, à part pour aller jusqu'aux toilettes, vomir et se recoucher. Je suis seule. Un vrai privilège. J'ai le parc rien que pour moi. Je relis les derniers mots de Lazare.
Je ne sais pas si tu auras envie de le rencontrer, mais si tu veux mon avis, je crois que ce serait une bonne idée.
Décidément, ils se sont tous ligués depuis ce matin pour que j'aille parler avec mon père. Vous n'avez pas compris. Le revoir est la dernière chose dont j'ai envie. Je croyais que Lazare, au moins, serait capable de le comprendre. Quand Lazare est venu me voir la première fois à la prairie, je n'avais pas encore 8 ans. Il s'était pointé avec son golden retriever et ça avait été l'attraction de l'après-midi. Pendant que les enfants jouaient avec Argo, Lazare avait eu le temps de me parler. Il avait commencé par me dire qu'il aimait bien maman, que tout le monde l'aimait bien dans le quartier Sorano, qu'elle était si jolie, que c'était terrible ce qui lui était arrivé. Bref, tout ça, je l'avais à peine écouté. Jusqu'à ce qu'il m'annonce, d'un coup, qu'il allait enquêter. Lazare Kéredern était un ancien gendarme, brigade de Pont de l'Arche, en retraite depuis au moins 20 ans.
« Je le dois bien à ta maman »,
m'avait-il assuré.
« Et toi et moi, cette nuit-là, hormis tes parents, nous étions les seuls dehors dans le quartier. Ni toi ni moi n'avons rien vu, mais il y a sûrement d'autres témoins. On peut apercevoir la passerelle qui enjambe la rocade de tous les appartements de l'immeuble Sorano. Il y en a plus de 100. »
« 138 exactement », ai-je pensé dans ma tête.
« Je vais frapper à chaque porte. Les flics n'ont pas le temps, mais moi, si. Et si quelqu'un a vu quelque chose, je vais trouver. Fais-moi confiance. »
« Je t'ai fait confiance, Lazare. Je t'ai dit de m'attendre. J'ai foncé dans ma chambre, j'ai ouvert mon livre rouge et or, et je suis revenue avec ma feuille quadrillée glissée entre les pages. Mais 7 étoiles. » Les seules fenêtres allumées ce soir-là. Tu as eu l'air incroyablement épaté. Tu m'as serré très fort dans tes bras et tu m'as promis.
On va trouver, ma petite. Je te jure, on va trouver.
Je t'ai cru. Ah oui, je t'ai cru. J'ai tant espéré. C'était il y a presque 5 ans. Mais tu n'as rien trouvé.
Je continue, Ophélie. Je m'accroche à nos étoiles. Je retourne les voir régulièrement. Avec le temps, on a même sympathisé. Madame Bell m'a dit, 7e étage, porte 2, qui regardait une vidéo sur sa télé cette nuit-là. Monsieur et Madame Pellivan, 4e étage, porte 8, qui n'arrivaient pas à dormir sans lumière allumée. Mademoiselle Thiers, 2e étage, porte 9, qui terminait de lire La bicyclette bleue. Madame M. Barek, 2e étage, porte 11, qui s'était relevée pour prendre un 3e Temesta. Monsieur Persaigne, 5e étage, porte 12, qui se levait avant d'aller prendre son car, et son car, à Renault Cléon. Je les revois souvent. Tous me demandent de tes nouvelles, et tous me redisent « On est désolé, on est si désolé, Lazare, mais on n'a rien remarqué cette nuit-là. J'ai été sous la douche, j'avais le nez dans mon dernier chapitre, je ronflais dans mon canapé. » Aucun résident de l'immeuble Sorano n'a regardé dehors, aucun n'a entendu de bruit. 290 fenêtres, j'en connais le nombre précis maintenant. 512 habitants, autant de témoins potentiels, et personne n'a rien vu. Pourtant, je ne lâche pas, Ophélie. Il reste Aliot et Mizar. Et tant que je serai vivant, je les chercherai.
Mizar, 8e étage, porte 3. Aliot, 6e étage, porte 6. Les deux seules étoiles de la Grande Ourse que tu n'es pas parvenu à identifier, Lazare. Tu as commencé ton enquête 7 mois après la mort de maman. Les occupants de ces deux appartements avaient déjà déménagé. Leur nom n'a pas été difficile à trouver. Aliot s'appelle Suzanne Buisson. Le bailleur social qui lui louait l'appartement est formel. Une petite vieille qui, d'après les voisins, avait au moins 90 ans. Il la croisait dans l'ascenseur ou dans la cage d'escalier quand il était en panne, peinant à remonter les 6 étages avec son cabas. Ils avaient bien compris qu'elle ne pourrait pas longtemps rester là. Un matin, un camion de déménagement s'est garé devant l'immeuble Sorano. En 2 heures, ils avaient tout embarqué, Suzanne avec. Plus personne n'a jamais eu de ses nouvelles. Tu m'as dit que tu l'avais cherché partout, dans les annuaires, dans les journaux locaux, dans les bulletins municipaux, dans les rubriques nécrologiques, toutes les Suzanne Buisson possibles, sans rien trouver. C'était il y a 6 ans. Suzanne aurait donc presque 100 ans. Si elle vit encore. Si elle a vu quelque chose cette nuit-là. Si elle s'en souvient. Cela fait beaucoup de si. Si maman si. Mizar s'appelle Valérie Petit. Elle avait 20aine d'années d'après les voisins. Étudiante, physique quelconque, horaire décalé, pas le genre à engager la conversation dans la cage d'escalier. Un petit fantôme comme il en existe une majorité dans les cités. Elle a quitté son appartement moins d'un mois après la mort de maman. Des Valérie Petit, tu en as trouvé 37, Lazare, aux 4 coins de la France et même une en Nouvelle-Calédonie. Tu les as toutes contactées. Aucune d'elles n'a jamais habité le quartier. Faut croire qu'il en existait une 38e, qui a disparu, qui se cache, qui a changé de nom, qui a été empêchée de parler. Depuis 6 ans, j'ai tout imaginé. La première année, Lazare, tu venais me voir chaque semaine, pour me tenir au courant de ton enquête. Puis, au bout d'un moment, tu n'avais plus grand-chose à me dire, alors tu t'es contenté de me téléphoner une fois par mois. Puis le temps a passé. On n'avait plus rien non plus à se dire par téléphone. Tu vieillissais, et moi aussi. Mais tu ne m'as jamais abandonné. Tu m'écrivais pour mon anniversaire, pour la nouvelle année. Tu m'envoyais un mot quand tu allais voir tes petits-enfants dans les Pyrénées, une carte postale ou un article de journal. Ainsi tu continues, Lazare. Tu continues de chercher mes 2 dernières étoiles, Aliot et Mizar. Mes 2 derniers espoirs.
Prends soin de toi, Ophélie. Tu sais, cela passe si vite, une vie. Je t'embrasse comme le vieux monsieur que désormais je suis. Argo aussi. Lazare.
Je plie la lettre pour la ranger dans l'enveloppe quand je remarque que tu as glissé à l'intérieur un petit article de journal, à peine plus grand qu'un timbre. Quelques lignes dans le Paris Normandie à la rubrique Faits divers, où la libération de Jocelyn Crochet est annoncée. Merci, Lazare. Je prends précieusement le bout de papier entre mon pouce et mon index, puis de ma seule main libre, j'ouvre mon sac à dos et je sors mon grand classeur. Je réfléchis un instant dans quelle pochette ranger l'article. Celle qui concerne mon père ne contient qu'une dizaine d'articles, presque uniquement ceux que tu m'as envoyés. Paris-Normandie, Liberté Dimanche, une colonne dans Libération, des articles assez longs les jours qui ont suivi la nuit du 29 avril 1983, puis seulement quelques lignes ensuite, un ou deux paragraphes au moment du procès, puis plus rien. Plus rien depuis 5 ans. Je coince le papier dans la pochette de plastique transparente et machinalement, je feuillette les autres. Celle de maman, où j'ai rangé mes dessins, mes mots d'amour, mes poèmes, mes coccinelles en origami, mes libellules, mes abeilles, tout ce qui vole et sur quoi tu règnes, Maya, ma reine de tous les êtres qui papillonnent de fleur en fleur. Je tourne une nouvelle pochette, la plus épaisse, celle de Vidame, celle où je garde tous les articles qui parlent de lui. De sa jolie trajectoire, comme ils écrivent dans le Paris-Normandie, de son ascension, comme ils insistent dans le bulletin de l'arrondissement de Rouen. Au départ simple délégué à la tutelle, il est devenu chef de service, puis directeur d'établissement à caractère social, un petit d'abord, un lieu de vie et d'accueil en pleine nature, avant qu'il ne reprenne d'une main de fer un institut de rééducation au bord de la rupture. Il a enfin créé sa propre structure de protection des familles, l'ASTUR, l'Association tutélaire de Rouen, spécialisée dans les curatelles, les tutelles et les sauvegardes de justice. À chaque fois, les portraits décrivent Richard Vidame comme un gestionnaire avisé mais profondément humain, sachant tenir l'équilibre délicat entre politique sociale et contraintes budgétaires. Un humaniste engagé, un dirigeant moderne et innovant, une référence, un exemple à suivre qui ne recule devant aucun défi. Pour en arriver à l'apothéose il y a 2 ans et sa nomination en tant que directeur du service social du département. Presque 1 milliard de budget et des milliers de salariés à gérer. J'ai découpé depuis au moins 15 interviews de lui, où il répète en boucle, avec le même sourire, les mêmes formules à la con. L'engagement du département, la priorité aux enfants et aux adultes vulnérables, la confiance aux associations, la solidarité d'abord. Je relis encore et encore ces mots, chaque surnom que ces idiots de journalistes s'amusent à lui attribuer. Monsieur Protection, le roi Astur, Richard Cœur de Lien, pour bien laisser la haine pénétrer dans chaque pore de ma peau, couler dans mon sang, noircir mon cœur. Profites-en, Richard. Profite bien. Bien sûr, personne ne m'écoutera. Personne ne croirait une gamine comme moi si elle venait raconter à ses journalistes que ce soir-là, maman t'a supplié, t'a téléphoné, t'a appelé et encore appelé. Et que tout ce que tu as trouvé à lui répondre, c'est « Cessez de me harceler, je dois y aller, j'ai une vie privée ». Qui pourrait croire que derrière ton sourire de notable, comme ils disent, se cache une telle ordure ? Profites-en, Richard. Profite bien. Car je vais bientôt venir te présenter la facture. Tu vas devoir payer. Tout en rangeant le classeur dans mon sac, je regarde la grande façade de la petite maison dans la prairie. J'aperçois Béné secouer une couette par la fenêtre grande ouverte. Nina a dû finir par se faire dégager. Pauvre Nina. Si elle savait le programme que je lui ai préparé. Vivement la rentrée. Je prends une grande respiration. Quand j'avais 7 ans, ce toboggan me semblait géant. J'avais la sensation d'être perché en haut d'une montagne quand j'atteignais son sommet. J'étais terrorisée avant de me laisser glisser. Je pousse sur mes mains. Je me laisse entraîner par la pente de bébé. Aujourd'hui, je n'ai plus peur de rien.